Extra classe.
C'est bientôt la rentrée, Régis. Est-ce que tu te souviens de ton premier passage devant une classe? Comment tu as appréhendé les regards de tous ces élèves tournés vers toi, les premiers mots que tu as lancés, ta posture? Qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que tu te sentais prêt à ça?
Alors effectivement, je me souviens que la toute première classe, c'était à la fois beaucoup d'excitation et beaucoup d'enjeux. Des moments de gêne, où poser mon regard, que faire de mes mains. Des éléments sensibles sur lesquels on ne nous avait pas du tout formés.
C'est sans doute ce que des milliers d'enseignants peuvent ressentir tous les jours et on a pensé à eux dans cet épisode de rentrée. Nous allons échanger avec notre invité, Jean Duvillard, sur les micro-gestes de l'enseignant. Il nous donnera des clés pour les identifier et apprendre à les maîtriser.
Jean Duvillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et vous avez été longtemps formateur à l'IUFM puis à l'ESP de Lyon. Vous avez conçu dans ce cadre de nombreux outils de formation, notamment en ligne, un site consacré à la voix et un MOOC. Et enfin, vous êtes auteur de, notamment, « Ces gestes qui parlent, l'analyse de la pratique enseignante ».
Alors, Jean Duvillard, en quoi les propos de Régis sur les premiers contacts avec une classe font écho avec votre expérience de formateur ?
Eh bien, merci en tout cas de m'avoir invité, parce que ce sujet il me tient à cœur depuis pas mal d'années. J'étais responsable de formation pendant plus de 20 ans, justement, vous avez dit, à l'IUFM, l'ESP, puis pour finir, INSPE. Et au mois d'octobre, à peu près, aux premières vacances, j'étais le bureau des pleurs. Parce que entre la réalité, comment dire, qui avait envisagé les enseignants, et puis la réalité du terrain, eh bien, il y avait tout un monde. Et comme vous avez très bien dit, eh bien, quand on rentre, on pourrait dire dans l'arène, eh bien, on a l'impression que tout va s'écrouler. Et dans le livre que vous avez cité, là, sur les micro-gestes, les postures, la posture de l'enseignante, je donnais beaucoup d'exemples d'enseignants, justement, d'étudiants. Et ils me disaient, j'avais préparé mon cours, j'avais justement, avec la conseillère pédagogique, tout était nickel, mais quand j'ai eu en face de moi 25 perdus, ah, tout s'est écroulé. En fait, c'est vrai qu'on n'y apprend pas forcément. C'est comme si c'était un don du ciel qu'on recevait et qu'on devait, enseignant en maternelle, dans le premier degré, dans le second degré, jusqu'à l'université, avoir reçu ça en prime. Et je me suis dit, ben, c'est un peu plus complexe que ça. Et comme j'étais ce bureau des pleurs, ben, je me suis attelé, on pourrait dire, à regarder dans le détail en quoi l'insignifiance de ces petits détails pouvait porter toute la signifiance d'un propos. Alors voilà en introduction ce que je pourrais dire. Le sujet est d'actualité, la rentrée comme vous avez dit. Finalement, je me sens à l'aise dans mes préparations, dans la didactique. Mais qu'est-ce qui va arriver dans la réalité objective de la rencontre avec 25 tant qu'étudiants ou élèves ?
Et vous militez pour une sorte d'approche praxéologique du métier. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est une entrée pratique, praxéologique, qui est basée sur l'analyse des situations proprement dites d'enseignement. D'une part, il y a la préparation chez soi, avec l'objectif que je me fixe, avec tout le contenu de formation, avec finalement, on pourrait dire, tout le dispositif. Mais après, il y a ce que j'appelle la mise en scène de la personne. Comment, entre l'intention que j'ai de faire développer, de faire partager une compétence, et après, la mise en situation, comment mon corps, comment ma gestuelle, comment mon regard, comment ce que j'ai appelé être des micro-gestes professionnels vont aboutir et faire en sorte que j'arrive à obtenir ce que je veux des étudiants ou des élèves que j'ai en face de moi.
Alors vous parlez justement de cette approche sensible et dans ma petite expérience que je relatais en introduction, il y a le fait que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime puisqu'on touche au corps de l'enseignant pour le coup. Et c'est ça aussi qui fait que c'est peu diffuser, peu enseigner et que ça doit tomber du ciel, comme vous dites ?
Bon, on ne veut pas y toucher, on a peur. On a peur de mettre les pieds dans cet espace de formation. Il est beaucoup plus facile de faire des grandes conférences sur la souffrance des enseignants, sur la sociologie, sur toutes les causes qu'on pourrait dire qui fait que c'est difficile, la violence. Mais s'intéresser à la relation en direct, mise en situation, incarnée, on pourrait dire, dans ces petits gestes qui vont façonner ou pas la qualité de la relation, c'est un autre monde. Et vous parliez du premier livre que j'ai fait sur ce sujet, qui était les micro-gestes enseignants. Je viens d'en faire un deuxième qui a été publié en octobre dernier, sur la posture et la relation apaisée. C'est faire face à ces situations difficiles. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un enseignant au mois d'août ? Comment je vais rentrer en contact avec mes gamins ? Est-ce qu'ils seront suffisamment gentils ? Est-ce que je vais pouvoir justement arriver à une relation plus ou moins saine ? Et c'est un petit peu ça que j'essaye de mettre dans ce travail. Donc l'intime, certes, mais l'intime par rapport à des gestes très particuliers que j'essaye de mettre en évidence. Et j'ai appelé ça des micro-gestes professionnels.
Alors, quelle transition, hein, Hélène ? On peut pas dire, on peut pas faire mieux. L'idée, est-ce que vous pourriez présenter ces 5 micro-gestes professionnels en quelques mots ? On s'attachera dans la suite de l'émission à faire le focus sur quelques-uns, mais quels sont ces 5 gestes ? Et j'aime bien l'idée que vous les présentiez comme les 5 doigts de la main, c'est-à-dire à la fois indépendants, mais complètement interdépendants aussi.
Indépendants et concomitants. Quand il y en a un qui ne fonctionne pas, malheureusement, ça se lit tout de suite. Le premier... Alors, c'est intéressant parce que dans mes écrits, quand je le partage en conférence, je mets toujours en un la posture de l'enseignant, ce que j'appelle la posture gestuée jusqu'à dans l'usage de la main qui implique ou la main qui va expliquer. Mais finalement, quand je demande aux enseignants, le premier qui leur vient à l'esprit, c'est toujours le regard. Et le regard, c'est lui qui signe la qualité de la relation. Donc ça en fait déjà deux. Hein. Le premier, c'est la posture gestuée jusque dans l'usage de la main. Le deuxième, le regard qui signe la qualité de la relation qu'on va mettre en place. Le troisième, c'est la voix outil d'enseignant. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai commencé mon travail sur ces micro-gestes. Le troisième, donc la voix. Le quatrième, c'est le positionnement tactique dans mon placement et mes déplacements. Et le dernier, j'ai appelé ça l'usage du mot, c'est-à-dire comment, dans le mot que j'utilise, je vais envoyer plutôt du négatif ou du positif. C'est ce qu'on appelle aussi en analyse transactionnelle des strokes positives ou négatives. Et je travaille beaucoup en ce moment, en recherche, sur ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, justement, par rapport à ces mots. Donc, 5 micro-gestes, 5 détails qui tiennent, à eux seuls, on pourrait dire, dans leur concomitance, la qualité de la relation éducative que je mets en place au sein d'un enseignement quel qu'il soit.
Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va commencer peut-être par la posture gestuée. C'est celui que vous citiez en premier. C'est peut-être celui, effectivement, auquel on peut penser en premier quand on parle de gestes, hein, de micro-gestes. Mais ça va au-delà. C'est aussi la façon dont on est habillé. Ça recouvre beaucoup de choses. Alors, dites-nous un petit peu plus sur ce micro-geste.
La première chose, c'est... Je rentre en scène. Et quand je rentre en scène, soit... Alors, ça faisait rire mes étudiants, mes professeurs, hein, du premier et second degré. Je leur disais, quand vous rentrez en scène... Soit vous avez une énergie qui est devant, soit une énergie dans les fesses. Alors, quelque part, c'est ça. Si je suis devant, quelque part, je vais davantage être impliqué, plus dynamique. C'est comme si j'ai une intention d'aller vers mon auditoire. J'ai quelque chose à dire. J'ai à défendre un bout de gras, on pourrait dire. Alors, je caricature en disant avec ces termes, mais c'est un petit peu ça quand même. Ça crée en moi une sorte de posture dynamique. Tonique. Mais ça passe par l'assise du corps, par rapport à la plante des pieds, par rapport à la respiration. Alors on a tout un travail qu'on fait en formation là-dessus et que j'explicite dans ces ouvrages, justement. Et aussi dans le site sur la voix qui nous permet, justement, avec ces petites capsules de vidéo, de comprendre comment je dois me tenir en face d'un groupe, d'une manière frontale, dans certains moments, ou les déplacements à d'autres. Le premier, donc, la posture gestuée. Je dis juste que dans l'usage de la main, parce que la main, elle va prolonger notre intention. Elle va essayer après d'aller en contact et c'est elle qui signe par ce geste l'intention qu'on porte sur l'autre, sur l'élève.
Vous parlez de la posture gestuée, vous disiez le bon positionnement aussi pour bien respirer et donc l'interdépendance avec la voix, un des 5 micro-gestes. Et quelque chose qui est finalement aussi assez peu travaillé, souvent on dit parle fort, exprime-toi bien, une bonne élocution, mais on va bien au-delà de ça en fait dans ce micro-geste de la voix.
C'est beaucoup plus complexe. Si vous voulez regarder un petit peu la précision de mon travail, j'ai une 15e d'items sur la voix. Hein. Sur la construction dynamique, c'est l'intonation, c'est la respiration, c'est les césures qui sont suspensives, conclues, enfin, etc. C'est assez complexe, mais finalement, quand on veut maîtriser un peu l'art oratoire, on a besoin justement de maîtriser un petit peu ça, avec l'idée d'accentuation, quand j'ai quelque chose un petit peu d'important à dire, ou de surligner, voilà. Mais tout ça, comment dire, va de pair justement avec une idée qui est l'intentionnalité. C'est-à-dire, dans le dernier bouquin, c'est ce que j'ai expliqué avec cette pyramide des enjeux. Si je n'ai pas derrière mon propos un noble enjeu, ce que j'appelle un noble enjeu, qui est toujours éthique, philosophique ou anthropologique, eh bien finalement, je n'arrive pas à avoir suffisamment de crédit auprès de mes étudiants, de mes élèves ou de mes petits-enfants de maternelle. Alors la difficulté, c'est d'arriver à cerner ça, pour être complètement engagé dans mon incarnation grâce à ces micro-gestes, mais aussi avec une posture d'intention qui fait qu'on a quelque chose à dire en face d'un public.
Il y a aussi donc il y a ce noble enjeu, puis il y a des choses qui relèvent vraiment de l'ordre du détail et que chacun ne repère pas nécessairement dans sa pratique. Et ça peut être un enseignant qui a un défaut de prononciation, ça peut être des choses comme ça, et il faut faire avec ce qui on est en fait, hein, comment on se présente, comment on parle, etc.
Alors la première chose, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train d'impliquer, les aspects psychologiques du comportement, c'est de se faire confiance à soi. Accepter d'être tel que l'on est. Moi, des fois, je parle un peu vite, vous le voyez. Mais finalement, ça montre aussi que j'ai une certaine conviction et que je veux aller de l'avant. Alors, on n'est que ce que l'on est. Et finalement, la meilleure chose, c'est de ne pas tricher par rapport à soi. Et tout le travail avec les étudiants est, en général, quand je m'occupais des gens en difficulté, c'était justement de leur redonner cette confiance. Si je commence à avoir confiance en moi, il y a plus de chances que celui qui est en face ait confiance en moi. Et quand je vois qu'il commence à avoir confiance en moi, j'ai encore plus confiance en moi. Alors tout notre métier de formateur, est justement d'aider à faire prendre conscience de cette confiance en soi. Mais ça passe aussi par des gestes très techniques. Donc c'est pas le Club Med mon travail. C'est-à-dire que finalement, il faut accepter de se mettre en face de soi-même et de repérer peut-être dans ses marqueurs, dans ses indices, ce qui signe en plus ou ce qui signe en moins. Donc c'est pour ça que j'avais mis en place ces types de formations et qui ont eu le succès qu'elles ont eu justement et qui ont fait que finalement ça fait pas mal de petits au niveau de ces jeux de situation. Voilà.
Vous disiez tout à l'heure qu'un des premiers enjeux de contact c'est le regard. Je vous propose qu'on écoute un petit moment audio, un extrait audio de vos travaux autour de cette question et on en parle juste après.
Dans le regard, tout à l'heure je parlais du regard, soit on a un regard de convention, c'est-à-dire que je regarde comme ça et je vous parle en pensant ce que je suis en train de dire. Donc je suis en train de vous parler de mon contenu, donc je suis assez dans ma tête. Soit j'ai le regard qui est plutôt sur ce que je vais dire, qui est concentré et qui canalise mon intelligence, si j'ose dire, ou le contenu de ce que je veux donner à entendre. Et quand je vais chercher l'autre du regard, ça se passe comment au niveau de la gestuelle? Est-ce que vous voyez quelque chose? Dans mon regard, quand je dis, par exemple, comme je parle en ce moment avec vous, qu'est-ce que je fais?
Au niveau des sourcils aussi.
Comment ça fait, à ton avis?
Ça monte.
Donc, si j'essaie de le jouer, et si j'essaie de vous le faire voir, j'ai une petite astuce pour vous, qui peut être considérée comme un petit geste de formation. Dans sa tête, quand on regarde un élève, on peut lui dire « Tu comprends ce que je te dis ?» Et dans mon regard, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac. Ici, au niveau des sourcils. « Tu comprends ce que je te dis ?» On va pas lui dire tout le temps que tu comprends ce que je te dis, mais dans la tête, l'idée, c'est que intérieurement, on ait cette intentionnalité, cette intention d'aller chercher chacun des élèves, chacun étant de fait reconnu ici à égale dignité.
Je crois qu'il n'y a rien de plus radiophonique que de s'imaginer ce micro-geste justement du sourcil. On est vraiment à ce niveau-là de détail, monsieur Duvillard.
Ben, ça faisait beaucoup sourire mes étudiants. Après, ils me chinaient, ils me disaient « Oh, ben, le sourcil, j'ai essayé ». Alors, le sourire, il y a le sourcil de séduction. Alors, vous pouvez imaginer, ça met tout de suite une bonne ambiance dans le groupe. Mais ça montrait aussi devant leurs camarades que c'est loin d'être évident de faire le bon geste de communication. Le regard signe la qualité de la relation. Donc, c'est le premier témoin de la mise en scène de la personne quant à ce qu'elle projette sur l'autre. Alors, tous les faits divers, il a regardé, etc., les tensions qui peuvent y aller, mauvais regard, ça vous dit quelque chose, je reviens pas dessus. Mais en classe, un élève ou un étudiant pour les supérieurs qui n'aurait pas regardé, il n'est pas reconnu. Donc de fait, on peut très bien, à partir de là, se demander qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce que l'élève, qu'est-ce que l'étudiant va pouvoir faire pour se faire remarquer. C'est du détail, certes, mais c'est un détail qui a un poids énorme. Alors j'essaye de me battre comme je peux avec les moyens qui sont les miens. J'ai un peu plus de temps puisque j'en retraite, mais je m'aperçois que c'est beaucoup, de plus en plus, je suis demandé justement pour faire partie, comme si je portais cette parole en disant c'est bien beau de faire des cours, comme je disais, sur la psychologie des comportements, sur la sociologie, sur les causes, etc., sur la souffrance de l'enseignant. C'est bien beau aussi d'essayer de faire les cours les mieux préparés. Si dans ma personne, je n'ai pas un minimum de formation pour savoir comment mettre en scène la propre intention, ma propre passion dans mon métier, je dis à mes étudiants, restez chez vous. Alors, je provoque, bien entendu, mais ils aiment aussi être provoqués, pas là où ça fait mal, là où ça leur fait mal, si on ne veut pas regarder ce détail. Je suis un petit peu emballé dans ce que je dis. Pourquoi? Je suis tellement convaincu, parce que finalement, mes collègues disaient, « Oh, mais tu les mets à nu, c'est drôlement compliqué, quelque part, c'est de l'intime, comme on disait tout à l'heure. » Ils me disaient, « Mais on ne doit pas la toucher, nous, on préfère pas regarder. » Par contre, on les met en stage, et on va les évaluer. Et on leur dit, ah oh ben, c'est pas ce qu'on attend de vous. Alors, ils me disaient tous, c'est pas ce qu'on attend de moi. En fait, je comprends que c'est pas ce qu'on attend de moi. Et puis, en plus, les conseillers pédagogiques, ils me disent des choses que je trouve très intéressantes. Mais malheureusement, ils me disent jamais comment je dois m'y prendre pour arriver à faire ce qu'ils aimeraient que je fasse. Alors, moi, je me suis dit, ben, notre travail est là, non. Arrêtons notre cinéma, rentrons dans une pratique quotidienne qui fait que... Alors j'ai vécu toutes ces transformations depuis 45 ans. Et finalement, alors j'ai une phrase qui provoque et qui choque un peu. Je dis finalement, on est resté un petit peu sur l'évangile selon Bourdieu. Donc quelque part, c'est bien gentil. Mais si on connaît les causes, peut-être que maintenant il faut s'attaquer à comment, aux moyens. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte de me battre souvent avec moi-même pour arriver à m'apprivoiser dans ces petits gestes du quotidien qui font que j'ai envie de dire quelque chose à l'autre. Et à partir de là, ça devient super passionnant. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire passer dans ce petit message ensemble aujourd'hui.
Alors on va parler justement de ce que vous faites en formation et de ce protocole d'une certaine façon que vous avez mis en place, donc avec deux temps. Donc je vous laisse nous en parler.
Alors le protocole, il est simple et compliqué à la fois. Il est simple parce qu'on peut, je pars finalement automatiquement de situations que les étudiants m'amènent, qu'ils ont vécu en classe. Ils ont vécu un incident et à partir de là, plutôt que de dire « on pourrait faire comme ça, il serait peut-être bien de l'analyser », de dire « non, on ne va pas verbaliser dessus, on va simplement essayer de le revivre ». Alors, soit l'étudiant, il joue le rôle de l'élève qui était difficile, soit il joue son propre rôle. Et c'est pour ça que je les appelais des jeux de situation. On repart d'une situation concrète. Et à partir de là, ses camarades vont essayer de relever ce défi. Mais il y a un protocole très, très, très strict. C'est toujours celui qui passe, qui dit en premier ce qu'il a vécu de la situation et toujours par quelque chose de positif. Et c'est toujours très difficile, ça. Tant qu'on n'a pas donné quelque chose de positif sur celui qui est passé, il n'y aura pas de confiance dans le groupe. Et que les me disaient, mais oh, c'est difficile, tu les mets encore une fois à nu et il ne veut jamais... moi, je ne me sens pas de le faire parce que quelque part, j'ai peur qu'ils soient trop déstabilisés. Mais je leur disais, ben, finalement, vous les mettez directement dans les stages, ils ne sont pas déstabilisés. Et puis, démerde-toi, puis à partir de là... tu vas te construire, ou alors tu vas aller voir le médecin pour te mettre en arrêt maladie. Je pars du principe que sur une formation professionnalisante, il est bien peut-être de donner les bons outils. Et ces bons outils passent peut-être par des situations très pratiques telles que celle-ci. Alors une fois qu'on a donné en place ce protocole, je leur fais vivre la situation. Et à tout moment, je peux arrêter. Et ces arrêts sur image, je leur demande celui qui est passé de dire en positif ce qu'il a fait. Et une fois que ses camarades vont dire ce qui est positif, on va pouvoir donner des petits cadeaux. J'ai appelé ça des petits cadeaux, ça pourrait être rigolo, mais ça les a super amusés. Et quand ça se passe très bien avec certains étudiants, il y a... et moi, pourquoi vous ne me donnez pas des petits cadeaux ? Alors, c'est des choses assez rigolotes que je vous fais partager, parce que finalement, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de travail. Voilà ce que j'appelle des jeux de situation.
Alors, c'est important, dans ce que vous dites, d'être vraiment accompagné. Je vais revenir à une petite anecdote personnelle. En début de carrière, justement, ces enjeux-là, je m'y suis confronté en me posant une petite caméra au fond de la classe et en me filmant moi-même, en m'observant. Et j'avoue que ça a été très déstabilisant, pour le coup, d'entendre certains mots sortir de ma bouche, de voir ma posture parfois pas du tout adaptée. Ce sont des choses, là, on est vraiment dans ces micro-gestes, où ça m'a autant déstabilisé que fait prendre conscience des enjeux. Et je pense que là, l'accompagnement est fondamental. Je ne sais pas si je le conseillerais, en fait, de s'auto-filmer sans être accompagné. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une très bonne remarque. Elle est censée, elle est proche de ce que l'on vit. Moi-même, les premières fois que j'ai pu le faire, on ne s'aime pas. J'aime pas ma voix, j'aime même pas mes gestes, j'aime pas ma posture. Ce qui est intéressant de savoir, par contre, c'est que tout le monde fonctionne de la même manière. Et tout le monde réagit de la même manière. Donc, à partir de là, on peut se dire que finalement, je ne suis pas une exception. Personne n'est une exception dans ce travail de confrontation avec soi-même. J'appelle ça aussi l'introspection. Ma thèse était justement là-dessus, sur l'introspection gestuelle, pour s'habituer à s'accepter soi-même par rapport à ça. Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas naturel. Alors, peut-être que ça dépend aussi de comment on accompagne. C'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit dans un premier temps, on peut le faire individuellement, où moi je me déplace, où la personne se filme, elle se déplace, elle vient me rencontrer, on le fait sous forme d'autoconfrontation. Mais j'ai choisi de le faire directement en classe, dans des petites scénettes. Pourquoi ça ? Parce que l'ensemble de mes cours commence toujours par une mise en situation corporelle. Alors, vous pouvez le voir peut-être sur le site. Et c'est vrai qu'on le faisait toujours par des jeux de situation où, sur le regard, sur le déplacement, sur l'usage de la main, on jouait une petite scénette, si vous voulez, technique, qui devait dire quelque chose. Ce qui fait que tout le monde étant dans la même situation, finalement, on apprenait à s'apprivoiser les uns avec les autres. Alors le mot clé, c'est peut-être ça, c'est apprendre à s'apprivoiser. Et j'avais trouvé peut-être une petite astuce qui peut nous aider aussi en formation, quelle qu'elle soit, de la maternelle à l'université, tant que chacun n'a pas donné quelque chose de lui-même devant les autres, eh bien, il n'y aura pas de confiance. Donc c'est le fameux chef-d'œuvre qui rentre maintenant, vous savez, en primaire, hein, pour les élèves, hein, qu'on leur demande de faire quelque chose qui leur tient à cœur et qu'ils présentent devant les autres. Je trouve que c'est une très très belle initiative, ça. Parce que ça nous motive, parce qu'on a quelque chose à défendre et on donne le meilleur de nous-mêmes en vue de réaliser une œuvre collective. Alors c'est pour ça qu'il y a certains champs disciplinaires qui ont aussi leur place. Et c'est aussi peut-être pas un hasard si moi qui étais au départ responsable de l'éducation musicale, puis qui suis chef de chœur et chef d'orchestre, j'ai choisi aussi cet aspect-là.
Alors justement, votre passé de musicien ressort beaucoup dans votre travail parce que vous parlez finalement d'improvisation à partir d'éléments qu'on aura travaillés. On fait ses gammes en fait, de la même façon qu'un musicien fait ses gammes, un enseignant, il doit s'entraîner à ses différents micro-gestes.
Pourquoi en serait-il autrement ? Pourquoi en serait-il autrement ? Dans un monde aujourd'hui qui est policé au niveau des codes de l'observation, enfin, je veux dire, avec YouTube, enfin, les réseaux sociaux, tout le monde se met à nu sur les réseaux sociaux, et finalement, les enseignants, on resterait dans nos classes sans que personne vienne nous voir, et on n'apprendrait pas à maîtriser nos gestes et nos postures. Enfin, ça me pose un vrai souci éthique, même, finalement. Donc, nous avons là un champ de travail en formation qui est énorme. Je crois de moins en moins à ces grandes discussions, à ces grandes formations qui sont que des verbiages. Par contre, je me bats bec et ongles, et je vous remercie de me proposer justement cette tribune pour essayer de faire prendre conscience de cette dimension qui, pour moi, est essentielle dans la formation d'un enseignant.
Alors, pour les enseignants qui nous écoutent et qui auraient envie de transposer par eux-mêmes un petit peu ce protocole de progresser, parce que j'imagine assez bien que, comme nous, il y en a beaucoup qui ont découvert le sens de ces 5 micro-gestes. Est-ce que vous auriez des pistes concrètes, là, les enseignants qui nous écoutent, pour se dire « Ok, je prends conscience de ces gestes, qu'est-ce que je peux faire, déjà par moi-même, pour avancer ?»
Alors, je vais revenir peut-être à l'improvisation, comme vous dites tout à l'heure, et ce parallèle avec la musique. On a parlé de faire ses gammes. Eh bien, faire ses gammes, c'est peut-être accepter de se prendre en vidéo. Une fois que je me suis mis en face de moi-même, et puis que je me suis apprivoisé, accepté, eh ben, je vais essayer de regarder ces petits détails que je mets en scène dans ces ouvrages, et je vais m'intéresser à un point. Et finalement, je vais me dire, est-ce que, quand j'utilise ce geste, il se passe quelque chose de particulier ? Alors, la difficulté, c'est essentiellement de développer ce que j'appellerais les conduites d'observation. Et les plus grosses difficultés avec les enseignants, les formateurs de formateurs, parce que je fais essentiellement ça maintenant, c'est d'arriver à développer l'œil, d'arriver à développer cette capacité à voir ce qu'il faut observer. C'est pas facile. Sur 30 secondes, j'y reste en général 1h30, et ça surprend toujours les personnes de voir tout ce qu'il y a à voir. Il me faut 30 secondes d'enregistrement pour arriver à capter tout ce qu'il y aurait à dire d'une personne. Alors, c'est ce qu'on appelle les fameux 4-20, ce qu'on appelle en entretien d'embauche, hein. Les 20 premières secondes, les 20 premiers pas, les 20 premiers mots et les 20 centimètres que tu es capable de soutenir dans le regard de l'autre. Alors, à partir de là, je veux dire, on comprend ce que c'est que veut dire enseigner. Alors, je reviens sur le lien avec mon musicien, je n'ai pas perdu complètement mon fil. Finalement, un musicien, c'est l'art du temps, c'est l'art de la représentation. Je pense que les enseignants comprennent. Les arts visuels, je fais un trace, je reviens dessus, mais quand on chante ou quand on est en direct, c'est les arts vivants, et c'est dans l'instant. Donc, il faut que je jette toujours une longueur d'avance sur ce que je produis, comme je fais en ce moment avec vous. C'est-à-dire que ma pensée doit avoir un peu d'avance sur la production sonore. Et bien, pour un musicien, c'est ça. Et un enseignant, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, il improvise, mais il a toujours, justement, une réserve de temps qui lui permet, justement, d'être pas coincé dans l'instant. Je crois qu'on comprend peut-être un peu mieux en plus si on est musicien et qu'on lit une partition. Quand on lit une partition, si vous tournez la page sur la dernière note, c'est pas possible. Ben pour un enseignant, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'enseigner ? Ben, c'est une somme de gestes antérieurement maîtrisés que j'ai à disposition et qui, dans l'instant, vont résurgir, comme dans l'improvisation en musique.
Une chose, vous disiez, hein, vous parliez des enseignants qui sont en difficulté, qui sont en souffrance pour certains, et qui peuvent écouter cela en se disant bah, « j'ai peut-être là des leviers pour régler des situations difficiles », mais en même temps, ce n'est pas simple de se mettre face à soi-même dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petite clé par rapport à ça ?
Les clés les plus simples, c'est peut-être d'essayer chez soi. Alors, ça va peut-être faire sourire, mais le danseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'entraîne devant une glace. Et qu'est-ce que fait une personne qui ne s'est jamais regardée ? Eh bien, elle ne sait pas comment elle est en face des autres. Donc la première chose, c'est ce que je leur disais, ben, vous vous regardez, vous acceptez. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais des directions de cœur aussi, je me suis aperçu que mes bras étaient beaucoup trop bas. Ben, finalement, je ne m'étais jamais rendu compte que ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si on veut prendre la mesure des gestes que l'on produit, il faut absolument qu'on puisse avoir un retour de ce que l'on produit. Le premier retour, le très simple, eh bien, je vais essayer de m'accepter, de m'apprivoiser en me regardant tout simplement devant une glace. Ça paraît simple, hein ? Ben, c'est pas si simple que ça. Pour me coiffer, ça va. Pour me raser, bon, le cuir, ça va. Pour me maquiller, peut-être, ça va. Mais me regarder avec un autre œil, l'œil de celui qui va me percevoir. Et me dire, finalement, est-ce que justement, dans ces petits gestes du quotidien, notamment, j'y reviens, ces 5 micro-gestes, est-ce que dans mon regard, quand je cible les personnes, je vais aller de Pierre à Gertrude, Mustapha, et faire en sorte que l'ensemble de l'espace soit vu ? Alors, j'ai une petite chose qui les aide, mes étudiants. Je leur dis, ben, tu commences dans ta glace, là, puis tu dis ta glace, un point en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Est-ce que tu couvres comme une tente l'ensemble de ton auditoire ? Ou est-ce que sur toi, tu as juste un parapluie ? Ou est-ce que tu as un parasol ? Alors, je leur dis ça, c'est des choses toutes simples. Alors, c'est très simple, vous me le demandiez, c'est des petits outils. Eh bien, simplement, dans ma posture et dans mon regard, eh bien, je vois ce que je couvre, la zone que je couvre, quand on parle du regard.
Il y a beaucoup de petites anecdotes, de petites choses comme ça que vous présentez dans l'ouvrage. Il y a aussi beaucoup de témoignages assez intéressants de vos étudiants, hein, des verbatim, de leurs échanges, où ils se rendent compte, effectivement, de certaines choses. Ils sont très surpris sur eux-mêmes. Donc, vraiment, on vous invite à voir ce livre et à aller approfondir avec tous les outils que vous avez produits. Pour finir, en quelques mots, est-ce que vous auriez une référence, une personne, une inspiration à partager avec nous ?
Teilhard Chardin dit une chose très belle. Se centrer sur soi, ben c'est ce qu'on peut apprendre finalement avec les micro-gestes, comprendre justement l'impact de mes petits gestes au quotidien. Se décentrer sur l'autre, c'est arriver à porter mon regard jusqu'à l'autre pour voir justement s'il arrive à rentrer en relation avec moi. Et puis peut-être se surcentrer sur une cause plus noble que soi. C'est celle qui, tous les matins, quand je me lève, fait que j'ai envie d'aller partager cette mission qui est mienne, d'enseigner.
Je crois que vous terminez l'émission mieux que ce qu'on aurait pu imaginer faire. Donc un grand merci Jean Duvillard pour avoir partagé autour de vos travaux ces 5 micro-gestes professionnels qu'on encourage vraiment tous les enseignants à aller voir de plus près. Merci.
Merci à vous.
Enseigner un art du geste, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Régis Forgione
et Hélène Audard.
Enregistrement, montage et mixage
Simon Gattegno.
Coordination de production
Luc Taramini et Hervé Thurie.
Directrice de publication
Marie-Caroline Missire.
Retrouvez-nous sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite pour ne rater aucun épisode.
Une production Réseau Canopée 2021.
Extra classe.